Le Musée des beaux-arts du Canada a ouvert ses portes le 16 juillet avec des expositions extraordinaires, dont une qui attire notre attention particulièrement en première mondiale, intitulée Rembrandt à Amsterdam, créativité et concurrence. Je parle de cette exposition et de bien d'autres choses en compagnie de Josée Brittany-Mallet, qui est agente principale aux relations publiques et médiatiques au Musée des beaux-arts du Canada depuis déjà 14 ans, Madame Mallet. Bonjour, Josée Brittany.
Oui, bonjour, Madame Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous donnez une autre bonne raison, finalement, d'aller à Ottawa avec cette exposition qui est présentée en grande première.
Absolument. Écoutez, c'est exceptionnel. C'est la première fois en plus de 50 ans au Canada qu'on présente une exposition consacrée à ce grand artiste qui exerce encore aujourd'hui une grande influence sur les artistes de tous les mouvements. Et on la présente au Musée des beaux-arts du Canada. Et c'est également aussi la première fois qu'ici, au musée, nous présentons une exposition sur Rembrandt.
Et pourquoi certaines personnes qualifient Rembrandt de peintre, de génie, du plus grand des plus grands, selon vous, Mme Mallet?
Écoutez, je ne suis pas une spécialiste. C'est une bonne question à poser à nos commissaires de l'exposition. Mais ce que je peux vous dire, c'est tout le jeu de lumière et l'atmosphère qui se dégage des portraits qu'il a faits est absolument sublime. Plusieurs gens ont étudié d'ailleurs le travail de Rembrandt, que ce soit pour devenir photographe, peintre même. Il a exercé une grande influence et d'ailleurs l'exposition met en dialogue les dessins, les estampes, les peintures de Rembrandt avec des œuvres de ses disciples, mais aussi de ses rivaux et de ses contemporains.
Ah oui. Alors, on peut voir plus de 120 œuvres qui ont été empruntées à plusieurs collections, là.
Il y a plus de 120 œuvres qui sont présentées, effectivement, et on a certaines du Musée des beaux-arts du Canada, dont le seul tableau dont nous disposons dans notre collection nationale de Rembrandt, qui est l'héroïne de l'Ancien Testament, qui est un portrait absolument remarquable et qui est aussi mis en contexte avec d'autres portraits dans une des salles de l'exposition. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que le musée a entrepris il y a un peu plus d'un an, nous avons profité de la pandémie pour réfléchir à la direction que nous voulions prendre dans les 5 prochaines années. Et une des valeurs fondamentales du musée, c'est vraiment de reconnaître les savoirs, les modes de savoir et d'être des Autochtones. Parce que, comme vous le savez sans doute, le Musée des beaux-arts du Canada est situé en territoire autochtone algonquin non cédé.
Savais pas jusqu'à ce qu'on ait une conversation ensemble hier.
Oui, alors effectivement, et puis de là, la directrice générale du musée, Sacha Souda, et puis de concert aussi avec notre conservatrice en chef, Kelly Scott, ont invité nos départements, nos conservateurs des départements d'art autochtone et d'art contemporain à intégrer dans le parcours de l'exposition des œuvres d'artistes autochtones et noirs contemporains pour rappeler aussi aux gens qu'à l'époque de Rembrandt, c'est la naissance du colonialisme. C'est aussi, malheureusement, c'est une époque qui est très dynamique. Amsterdam, à cette époque-là, c'est la capitale commerciale de ce qu'on appelle à l'époque la République des Provinces Unies. Alors, c'est aussi le lieu où Rembrandt va s'établir à l'âge de 25 ans parce que c'est un marché qui est très dynamique de collectionneurs d'art et aussi d'artistes qui sont très talentueux et qui se disputent l'attention de ces riches commerçants qui se sont enrichis en fait sur le dos aussi des Africains qui sont réduits à l'esclavage.
Qui sont ces artistes contemporains, autochtones et noirs, Josée Brittany?
Alors, d'abord, c'est qu'en entrant dans l'exposition, on traverse une installation sculpturale assez exceptionnelle de l'artiste Mohawk et canado-italienne Scawanacci.
Est-ce qu'il s'agit de la réplique d'un wampum?
Non, c'est une maison longue. L'œuvre s'intitule Maison longue du futur. Et donc, avant d'entrer dans l'exposition comme telle, on traverse cette magnifique structure, sculpture en aluminium. Ça donne le ton.
Ah oui, parce que je lisais un article dans Le Droit qui nous disait que la première chose qu'on découvre avant même le portrait de Rembrandt, c'est la réplique d'un wampum deux rangs.
Oui, effectivement. Alors ça, c'est une œuvre absolument magnifique. Et puis la ceinture à deux rangs ou à deux voies, en fait, qui était un traité, c'est parce que le premier contact qui s'est fait des Européens sur l'île à la tortue,
oui.
Comme l'appellent les autochtones, les premiers peuples ici, l'Amérique du Nord, pour eux, c'est l'île à la tortue. Alors, c'est le traité, c'était le traité que les Mohawks fait avec les Hollandais lors de leur arrivée à l'île à la tortue. Donc, on en retrouve une réplique d'un artiste autochtone qui a été fait au début des années 90, donc qui est présent. Mais c'est un symbole qui est présent tout au long de l'exposition. Et ce que je veux ajouter aussi, très important, c'est que nous avons intégré la voix de trois auteurs noirs et autochtones tout au long du parcours de l'exposition qui viennent jeter un éclairage sur ce que leurs peuples ont vécu et continuent de vivre encore aujourd'hui des répercussions de l'esclavagisme et du colonialisme.
Toujours en écho avec Rembrandt Amsterdam, créativité, concurrence ou c'est complètement
C'est intégré au sein de l'exposition, ça fait partie prenante de l'exposition. Donc, c'est une exposition qui est extrêmement riche. C'est une exposition et ça fait partie de la nouvelle vision du Musée des beaux-arts du Canada. Comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, on a entrepris une introspection vraiment en profondeur pendant la pandémie. Et ce qui en est ressorti, c'est que on a travaillé, entre autres, avec un comité aviseur d'aînés algonquins. Mm-hmm. Et de ces conversations avec eux ont surgi le terme ANKOSI, qui veut dire « tout est relié ». Donc, « everything is connected ». Et c'est vraiment la trame, si vous voulez, le thème qui vient donner la direction à tout ce que nous faisons au musée à travers nos expositions, nos acquisitions, notre programmation d'activités connexes. Est-ce que les gens vont expérimenter aussi en parcourant l'exposition?
Vous avez même fait des changements physiques. L'entrée principale n'existe plus. Il y a autre chose.
En fait, c'est ça, c'est que nous avons depuis 2 ans une nouvelle directrice générale, Sacha Souda, et lorsqu'elle est arrivée, la première constatation qu'elle a faite, c'est que on avait accès à l'art seulement une fois après avoir payé son billet d'entrée dans ce qui était auparavant l'entrée principale. Mm-hmm. Alors, elle veut une des valeurs fondamentales de notre directrice générale, mais aussi du musée, c'est l'accessibilité. Donc, elle voulait que dès que les gens entrent au musée et qu'ils soient mis en contact avec l'art. Donc, depuis son arrivée, c'est ça, on présente maintenant une deuxième œuvre, une installation majeure de l'artiste afro-américain Rachid Johnson, s'intitule Capsule. Alors, c'est une magnifique installation de grande dimension. C'est une structure pyramidale qui se veut un autoportrait de l'artiste, donc dans laquelle il a intégré quelques 200 plantes exotiques, donc plantes vivantes.
Alors, on se croit presque au jardin botanique quand on va à votre musée.
Ce qu'on appelait auparavant l'entrée principale devient en quelque sorte une serre Et donc, on doit prendre soin de ces plantes-là. Et ça fait aussi référence à toute la période de colonialisme, parce que ces plantes-là, donc, ont migré vers ici, l'île à la tortue, en quelque sorte, parce qu'elles ne survivraient pas dans notre climat ici nord-américain, mais on en prend soin dans nos maisons. Alors, il y a ce lien-là qui est établi, mais également, on retrouve ces plantes sont empotées dans des pots de céramique que l'artiste a fait lui-même à la main et qu'il a décoré de des motifs visuels qu'on retrouve dans ses œuvres.
On sent qu'il y a eu beaucoup de réflexion dans la préparation non seulement de la mission du musée, mais dans la préparation de l'exposition, parce qu'il y a des correspondances à peu près à tous les chapitres. Ça a pris combien de temps à monter cette exposition-là?
Bon, mais pour répondre d'abord à votre premier commentaire, vous avez tout à fait raison. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout est relié. Et ce mot veut dire, fait aussi référence à la relation avec tout ce qui nous entoure, les êtres humains, les animaux, les plantes, les éléments de la nature, mais aussi les époques et les espaces. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qu'on fait, dans toutes les thématiques qui sont abordées. L'exposition Rembrandt à Amsterdam a nécessité plus de 5 ans de préparation. C'est Madame Stéphanie Dickey, qui est docteur en histoire de l'art et qui a de l'Université Queen's à Kingston et qui a consacré sa carrière entière à Rembrandt et qui est une sommité internationale en la matière, qui a proposé au musée cette exposition-là. Et puis nous, il y a plus d'un an, notre directrice générale donc a invité nos équipes à y intégrer tout le volet contemporain dont on a parlé il y a quelques instants. Donc, c'est une exposition qui ne se répétera pas. Il faut en profiter pour venir la voir.
On peut la voir jusqu'à quelle date?
Jusqu'au 6 septembre. Et puis, je veux souligner pour vos auditeurs qu'une des valeurs fondamentales du musée, c'est l'accessibilité.
Oui, bien donc, important. Merci.
Oui, alors, dès que pour les gens qui se déplacent en fauteuil roulant, ils peuvent évidemment venir avec leur propre fauteuil, mais nous vous en prêtons également dès leur arrivée. Donc, nous avons des fauteuils motorisés. Et je veux souligner aussi que l'entrée est maintenant gratuite pour la personne qui accompagne
la personne en situation d'handicap.
Exactement.
Ah, ben c'est une heureuse initiative. Vous faites bien de la souligner. Et donc, pour si on se concentre juste sur Rembrandt, là, je sais que vous n'êtes pas une spécialiste. Il y a des peintures, des gravures, des estampes, des dessins. Est-ce que l'exposition, parce que j'imagine que vous l'avez visitée, José Brittany, est-ce que l'exposition nous donne la chance de mieux comprendre le quotidien du 17e siècle?
Oui, certainement. C'est sûr que dans ce qui est, mais en fait, il y a beaucoup de portraits. Alors, ce sont des portraits de personnes qui avaient les moyens de s'offrir le talent des artistes comme Rembrandt. Alors, c'est des portraits de personnes qui sont en fait des commerçants, des personnes qui ont fait leur argent à travers le commerce du thé, du café, du sucre, mais aussi malheureusement de la traite de personnes, donc qui ont fait l'argent sur le dos des Africains à travers l'esclavagisme. Donc c'est une période, c'est l'exposition permet de comprendre, même si elle ne montre pas, comme le dit un des trois auteurs que nous avons invités, Monsieur Rick Hill, qui est artiste Tuscarora et écrivain et curateur, parce que l'exposition aussi, elle est jalonnée, comme je l'ai mentionné, de propos très percutants de ces trois auteurs-là. Donc, Rick Hill qui explique qu'en fait, c'est que les œuvres, les portraits ne montrent pas toute la brutalité qui a permis à ces gens de s'enrichir.
Mais l'exposition nous permet de comprendre et de prendre conscience de cette brutalité-là.
Exactement, ouais. Entre autres. Et puis aussi, c'était pour Rembrandt, Amsterdam, il s'y est établi à l'âge de 25 ans. C'était un marché très dynamique pour les artistes qui compétitionnaient les uns aux autres, mais ça a permis à Rembrandt d'atteindre son plein potentiel parce qu'on sait, la compétition, c'est stimulant et puis certainement, ça l'a amené à se dépasser. Et puis, il est devenu non seulement, il a perfectionné son art, non seulement ça, mais il est devenu aussi un mentor.
Oui.
Il est
un
devenu
maître.
Un entrepreneur.
Alors, vous nous donnez le goût, José Brittany Mallet, d'aller au Musée des Beaux-Arts du Canada pour découvrir cette exposition qui semble fort riche et passionnante et instructive également, Rembrandt Amsterdam, créativité et concurrence. Vous diriez que ça nous prend combien de temps, là, si on veut bien en profiter, bien en avoir pour notre argent finalement, pour faire le tour de cette exposition-là?
Oui. Alors, d'abord, je veux souligner que vous devez vous procurer votre billet en ligne. Alors, il faut l'acheter ouais. en ligne. Et la raison, c'est simple, c'est que nous voulons assurer un environnement sécuritaire
oui,
évidemment. Pour nos visiteurs. Donc, et puis, vous pouvez réserver jusqu'à 14 jours à l'avance. Et puis...
Environ 1h30, 2h.
Non, c'est ça, pardon. J'avais perdu mon fil. Là,
non, mais je vous comprends, vous êtes trop passionnée.
Mais effectivement, il faut calculer un bon 1h30, une bonne 1h30 à 2h, là, pour vraiment prendre le temps d'apprécier, de lire les histoires, les cartels, et puis d'apprécier les œuvres d'art elles-mêmes.
Bon, alors, merci beaucoup pour toutes ces informations généreuses. On va se rendre à l'île de la Tortue, non amérindien, donc de l'Amérique du Nord, comme vous le disiez bien tantôt. Mais l'adresse du Musée des Beaux-Arts, c'est le 380 Promenade Sussex, toujours?
Oui, et puis surtout, je vais inviter les gens d'abord à se rendre à beauxarts.ca, qui est notre site web, Beaux-Arts avec un trait d'union, là où vous allez trouver tous les renseignements nécessaires pour bien préparer votre visite. Il y a de belles rencontres, des vidéos de conférences données par les conservateurs et les collaborateurs, beaucoup d'articles également. Donc, le site web et la page web consacrée à Rembrandt à Amsterdam, mais aussi à nos autres installations et expositions sont riches d'informations.
José Brittany Mallet, agente principale relations publiques et médiatiques, nous parlait de l'exposition Rembrandt Amsterdam, créativité, concurrence, présentée jusqu'au 6 septembre au Musée des Beaux-Arts du Canada. Merci beaucoup, José Brittany.
Je vous en prie. Merci à vous.